Et voilà, c'est la dernière partie de Clap, mais pas des moindres. On va vous parler maintenant des films sortis mercredi et évidemment qu'on vous conseille de découvrir au cinéma. Alors à mes côtés cette semaine, Sophie Grèche, vous êtes journaliste cinéma. Vous participez.
Bonjour
Sophie, au podcast, pardon, le cinéma. Ce qui me fait vous accueillir, Victor Bonnefoy, créateur du podcast, pardon, le cinéma. Et Franck Vallière de Canal+.
Ah oui, d'accord.
Toujours à mes côtés. Non, il ne fait pas partie du podcast, pardon, le cinéma. Alors avant de débattre des films, on va regarder ensemble le box-office de cette semaine. Alors un trio inchangé par rapport à la semaine dernière. Dune, Caracol en tête avec 662 000 entrées cette semaine, donc quasiment 1 700 000 entrées en deux semaines. Et il faut qu'il en profite parce que la semaine prochaine sort James Bond. Donc ça va un peu redistribuer les cartes. Deuxième marche du podium, et ça nous fait bien plaisir à la rédaction de Clap, Boîte Noire avec 185 000 entrées cette semaine, donc déjà 700 000 entrées en trois semaines, ce qui est très bien. Et puis en troisième position, j'ai envie de dire l'inamovible Bac Nord, 158 000 entrées cette semaine, un total de plus d'1 800 000 entrées depuis sa sortie le 18 août. C'est une vraie belle réussite quand même, Bac Nord. Alors, petite déception aussi, bon, faut le dire, hein, pour le film de François Ozon, tout s'est bien passé, qui doit se contenter de la 7e place du box-office. Sujet difficile, donc voilà. Autre sortie cette semaine, cette musique ne joue pour personne, le nouveau film de Samuel Benchetrit, avec une distribution chorale de rêve, quand même, on peut le dire. Vanessa Paradis, François Damiens, Ramzi Bedia, Joey Starr, Gustave Carven, Bouni Lanners, Valeria Bruni-Tedeschi, voilà, et encore d'autres. L'histoire qui se déroule dans une petite ville portuaire où de nombreux personnages plutôt isolés vont voir leur vie bouleversée par la découverte du théâtre, de la poésie, de l'art, et puis surtout de l'amour.
Il est mort ?
Oui.
D'une gifle.
Si tu fermes les yeux et que tu penses à moi, tu vois quoi ? Essaye.
Je vois que je t'aime.
Elle est jolie, cette musique. Mais s'il n'y a personne pour l'entendre, est-ce qu'elle existe encore ? C'est quoi ces conneries ?
Ah, c'est le livre de merde qui lit toute la journée.
Alors Victor Bonnefoy ?
Alors, gros coup de cœur que cette musique ne joue pour personne, qui est très intéressant parce qu'il démarre un petit peu avec des codes de comédie où on aurait trois duos qui se baladeraient ensemble. Donc on a à la fois le duo Ramzi Bedia avec François Damiens, Bouli Lanners avec Joey Starr et enfin Gustave Carverne avec Vanessa Paradis. Et chacun dans leur petit espace, on peut se dire ah, ok, on va avoir un enchaînement de sketchs, de situations rigolotes parce que c'est tous des truands qui ont des activités de truands un peu ridicules. Hein, c'est-à-dire que Bouli Lanners et Joey Starr, leur but c'est de convaincre les gens qui sont dans le lycée de la fille de leur patron de venir à sa boum. Donc on se dit ok, on est
avec
sur
des
un
méthodes
truc,
mais... un peu douteuses.
Oh, je vois pas de quoi vous parlez. Je voulais dire,
étranglement, non.
Étranglement dans les WC d'un lycée, ça n'a aucun rapport.
Pardon, mais sauf que ça, c'est les faits. Et en fait, l'allégorie de l'ange gardien et du binôme qu'il forme avec Joey Starr, en fait, c'est comme un cupidon. Ils sont un couple de cupidons qui viennent agir sur tous les personnages de ce film.
Exactement ça. Et en fait, c'est là où le film révèle toute sa tendresse, révèle toute sa douceur. C'est que justement, on a des personnages qui viennent d'une certaine brutalité, d'une certaine violence que leur a instauré la société. Et c'est en découvrant à la fois le théâtre, en découvrant pour le personnage de François Damiens la poésie, qui vont soudainement se libérer et donner quelque chose d'autre, quelque chose de plus doux et des scènes absolument magnifiques. Mention spéciale notamment à Valeria Bruni-Tedeschi qui ne cesse de surprendre cette année et qui est de plus en plus forte dans tous les films. En fait, chaque proposition de Valeria Bruni-Tedeschi cette année est incroyable. Et là, elle a une scène dans le film qui est une sorte de monologue qui vient voler toute la fin du film. Elle est d'une puissance infinie, d'une douceur incroyable. L'écriture de Samuel Benchetrit est folle. Et non, c'est un très, 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 très gros coup de cœur, tant par la beauté plastique de la mise en scène que par la douceur des sentiments. Et puis c'est drôle, merde, c'est drôle.
C'est très très drôle, Sophie Grèche.
Oui, ben en fait, j'y allais un peu à reculons parce que la proposition qui est ces six personnages masculins bourrus, je me suis dit c'est peut-être pas mon univers qui est plutôt sensible, doux et féminin. Et en fait, Samuel Benchetrit a réussi à insuffler dans ces personnages bourrus, presque un peu clichés, violents, ce qu'il y a de plus intime, de plus universel, à savoir juste comment réagir face à l'amour, comment il intervient, comment le manifester. Et je suis sortie en disant absolu chef-d'œuvre. Je ne pensais pas être autant submergée par autant de sensibilité et de finesse dans chacun de ces personnages-là.
Pour moi, c'est le meilleur film de Samuel Benchetrit. Franck Vallière.
Oui, pourquoi pas.
Moi, ça n'engage que moi.
Moi, j'aime beaucoup Janice et John et les phrases qu'il fait dire à Jean-Louis Trintignant. Finalement, vous et moi, nous sommes pareils. Vous croyez que la terre entière nous en veut, mais en fait, personne ne sait qu'on existe. Et il y a dans ce nouveau film une phrase de Vanessa Paradis. qui est un climax en 4 secondes, enchaîné par un monologue de François Damiens qui joue un gangster. Mais alors, c'est vrai que Ben Chiatt a une fascination pour les gangsters, mais pas aussi romantico-morbide, par exemple, que des grands classiques pondus par des grands cinéastes américains comme Les Affranchis, etc. Il s'attache cette fois-ci au romantico. Comment une petite chose poétique peut changer la vie de quelqu'un ? Et ça parle essentiellement des illusions, qu'elles soient perdues ou persistantes, dans un milieu qui est absolument pas du tout fait pour ça. Et souligné par exemple, pour l'idée de la poésie, il y a beaucoup de petits clins d'œil au travers de la radio qui diffuse des chansons romantiques. Mmh. Et le fait de pouvoir chanter une petite chanson romantique peut aussi bien plaire à quelqu'un du Ku Klux Klan qu'à un black, et ça regroupe tout le monde. Des petites choses, des petits moments de poésie qui vont transformer la vie de ces gens-là avec des climax de jeu à jouer absolument délirants.
Vanessa Paradis, son personnage est bègue. Elle ne bégaye pas au moment où elle joue, mais elle a une vraie belle partition, et c'est une prestation d'actrice. On l'a jamais vue dans ce registre. Donc voilà, je crois que tout le monde ici, en tout cas dans le studio, a beaucoup aimé. Et vous en avez pensé quoi ?
Je trouve ça très drôle, c'est déjanté, ils se moquent d'un peu de tout, quoi. Le féminisme, la culture, la création. Donc c'est très drôle, c'est très bien joué, on a passé vraiment un très bon moment.
J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très original, très tendre aussi, et les acteurs étaient fabuleux. En particulier Vanessa Paradis, je l'ai trouvée étonnante.
Dans le générique, il disait la musique, s'il n'y a personne pour l'écouter, est-ce qu'elle existe toujours ? Je voulais la réponse, et je l'ai eue dans le film.
Alors on quitte la douceur de cette musique ne joue pour personne, pour vous parler de Candyman. Si vous aimez donc les films de genre, c'est la suite de ce film culte de toute une génération quand même, l'icône du film d'horreur, celui dont il ne faut jamais prononcer 5 fois de suite son nom devant un miroir, et il revient enfin sur grand écran.
C'est là que tout a commencé. La légende de Candyman. Il se baladait dans le quartier et distribuait des friandises aux enfants. Un jour, des enfants ont trouvé des lames de rasoir dans leurs bonbons. Et la légende raconte que si on dit son nom 5 fois en regardant dans un miroir, on peut le faire apparaître.
On invoque Candyman ?
Hors de question.
Dites son nom. Candyman.
On tremble. Alors Victor Bonnefond, on en dit quoi de Candyman ?
Eh bien on en dit beaucoup de bien, on est ravis de retrouver le personnage de Candyman qui n'avait pas beaucoup été respecté dans les suites du film original de 92 de Bernard Rose, pour finir jusqu'à faire un téléfilm un peu pourri à la télé. Mmh. Donc c'est un vrai plaisir de retrouver justement l'univers créé par Clive Barker, en plus réactualisé par Naya Da Costa et le producteur Jordan Peele, donc qui avec sa production Monkey Poe avait déjà fait à la réalisation Us et Get Out, et qui revient ici justement pour réactualiser les thématiques de Candyman, pour justement nous montrer toute la gentrification d'un quartier qu'on avait connu comme un ghetto à l'époque du premier film, et qui là vient nous raconter justement ce que c'est que l'évolution d'une mythologie, l'évolution des légendes urbaines, et comment à un moment les histoires se perdent, se tordent, quelle est l'origine du mal, l'origine d'un mal-être de toute une époque, de toute une civilisation. C'est assez passionnant. Candyman, ça fait peur, c'est fantastique, et tout l'univers visuel de Naya Da Costa nous donne envie de voir plus de films d'elle.
Et je suis complètement Sophie. D'accord, en fait, je vais juste rajouter 2 petits trucs qui sont, en fait, elle a réussi à garder l'essence même du premier Candyman, qui est l'imagerie de la ville, comment on s'en sert comme un personnage tordu, labyrinthique, et qui crée ses propres légendes urbaines. Et encore une fois, là, elle les change, elle les fait évoluer. On voit que les personnages qui racontent le premier Candyman, ou en tout cas sa légende de base, ne se focalisent plus sur cette espèce de croque-mitaine, mais sur le personnage qui était interprété par Virginia Madsen, pour en faire elle la grande méchante. Donc ça, déjà, c'est un point de vue absolument passionnant. Et surtout, elle en a fait un vrai film post-George Floyd, et donc elle a juste décalé le propos politique, et elle l'a très bien fait.
Alors on va tout de suite écouter vos réactions.
Je suis un grand adepte des films d'horreur, et ça m'a pas plus que ça en fait. Le film est assez lent et pas forcément tout le temps cohérent, donc je suis assez déçu.
Non, enfin, j'ai rien à dire dessus.
Non, j'ai pas aimé.
Je trouve ça pas mal. J'ai aimé le fait que ce soit une suite entre guillemets de celui des années 80.
Bon, il en faut pour tous les goûts. Les spectateurs, eux, ont a priori pas tellement aimé Candyman. Alors, une autre sortie controversée aussi, hein, c'est Flag Day de Sean Penn, présenté au dernier festival de Cannes, dans lequel il dirige sa fille, Dylan Penn.
Non, mais
ça,
je rigole
mort
déjà.
De rire. On va écouter un extrait d'abord.
Les moments inoubliables de l'enfance sont des contes de fées.
Don't you fly so close to the sun.
Et dans le mien, mon père était le prince.
Papa, tu fais quoi ?
Je suis entrepreneur.
Ton père est un menteur.
Votre père, John Vogel, a imprimé 22 millions de dollars.
Même
Si ce putain de monde explosait, je serais là, ma puce, à tes côtés.
C'est adapté d'une histoire vraie, hein, je crois, Victor.
Je suis pas certain, et si c'est adapté d'une histoire vraie, je ne sais pas s'il y avait vraiment de l'intérêt à la raconter. C'est assez terrible ce qui arrive à Sean Penn, qui déjà nous avait fait le coup avec son précédent film The Last Face, qui était une purge abyssale sur une histoire d'amour en plein milieu de l'Afrique. C'était absolument horrible. Il revient avec Flag Day, et vraiment c'est terrible. C'est terrible. Qu'est-il arrivé à Sean Penn? Qu'est-il arrivé à la personne qui nous avait réalisé Into the Wild? Qu'est-il arrivé à cet homme-là qui vient ici nous raconter des histoires insipides, mal réalisées?
Mais comme il a réalisé Into the Wild, on peut tout lui pardonner.
Ah ouais, mais j'ai pas 2 heures de ma vie à donner à cette personne, vraiment. Non, c'est absolument terrible ce qui se passe. C'est quand même quelqu'un qui, pendant les 20 premières minutes, n'a tellement rien à raconter de son histoire, qui filme tout en gros plan avec des clips musicaux. Je pense qu'il y a environ, sur les 20 premières minutes du film, 18 minutes de musique et 2 minutes de dialogue, juste pour nous filmer des parodies à la Terrence Malick, avec des gens qui viennent mettre les mains au milieu des champs et tout, pour nous raconter une histoire d'un père avec sa fille, mais ils ne se sont jamais vraiment entendus parce que lui, il est un peu braqueur, un peu nul, un peu raté, et Sean Penn en fait des caisses tout le long. Si c'est ça le cadeau qu'il voulait offrir à sa fille, lui disant « Viens, tu joueras dans un film de papa », il doit vraiment pas beaucoup aimer sa fille.
Oh non, on peut pas dire ça.
Il faut voir le film pour le croire.
Hein. Allez, on écoute vos réactions.
J'ai trouvé que c'était un film très émouvant. Une bande-son qui était vraiment également très bien. Pour moi, c'est sans doute l'un des meilleurs films de Sean Penn.
En fait, c'est toujours les mêmes images qui reviennent de son passé avec son père. Et voilà, une fois qu'on les a vues une fois, c'est bon, quoi. Bon, par contre, c'est très bien joué.
C'était très chouette. J'ai aimé beaucoup la lumière et c'était assez poétique.
Le public a toujours raison. Voilà, et le public a été touché.
Eh bien, j'embrasse très fort le public que je ne comprends décidément plus.
Allez, à vous de vous faire votre propre opinion. Et puis, un dernier film cette semaine, la sortie du film de Christophe Honoré, Guermantes, qui a été diffusé d'abord sur France 5 la semaine dernière. Il a fait 243 000 téléspectateurs. Le cinéaste, en fait, filme les répétitions de la troupe de la Comédie Française qui devait jouer à la pièce de théâtre Le Côté de Guermantes et qui ne pouvait plus à cause du Covid. Donc, il a décidé d'en faire un film avec, donc, notamment au casting, Laurent Lafitte. Écoutez.
Pour l'instant, moi, j'ai reçu aucune instruction.
Il n'y a pas de première, on ne jouera pas.
À partir du moment où on sait que la représentation n'aura pas lieu, on ne va pas continuer à répéter.
Parce que c'est déjà arrivé dans cette Comédie Française depuis 1680. Un spectacle qui n'existe pas.
Mais moi, je m'en fous, allez, on répète.
C'est absurde, c'est des musiciens du Titanic.
C'est pas insensé de répéter quelque chose, peut-être, juste pour vous.
Franck Vallière.
Oui. C'est moi.
Au tableau.
Eh bien, écoutez, si vous avez aimé ne serait-ce qu'un tout petit peu Fast and Furious, vous oubliez complètement ce film. Évidemment, c'est du cinéma d'auteur français. Christophe Honoré, ce film d'ailleurs, dans ce film, et on prend un grand plaisir à l'entendre dire qu'il se trouve mauvais acteur. Quant à savoir s'il le trouve vraiment, ça c'est une autre chose. Mais effectivement, ce qui est intéressant dans ce film, en tout cas, c'est de voir à quel point les comédiens de théâtre, et particulièrement ceux de la Comédie Française, sont des Pentium, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont précis dans leur jeu d'une manière qui est quand même rare. Et quand c'est filmé dans une sorte d'improvisation qui tourne autour d'une pièce de Marcel Proust, il arrive une espèce de magie au sein du film de Christophe Honoré qui nous fait hésiter, quand on connaît assez mal Proust, comme moi par exemple, sur le fait de savoir est-ce qu'il joue une attente, une répétition, ou est-ce qu'il joue du Proust. Et du coup, la vie se mélange avec la répétition d'un texte évidemment célèbre et fameux, qui est d'ailleurs par ailleurs excellemment choisi pour les séquences, et ça donne une ambiance très doucereuse, feutrée. C'est du velours triple couche dans lequel, évidemment, si vous regardez plus souvent Piège de cristal qu'autre chose, vous allez assurément vous noyer.
Et puis on révise nos classiques cette semaine avec la sortie d'Eugénie Grandet, l'adaptation du célèbre roman d'Honoré de Balzac par Marc Duguin. Peut-être que vous l'avez étudié à l'école, c'est un roman écrit au 19e siècle mais qui a une résonance très moderne. L'histoire, je vous la rappelle, c'est celle d'Eugénie Grandet, victime de l'avarice de son père qui ne veut pas la marier pour ne pas avoir à payer de dot. Elle est ensuite trompée par l'homme qu'elle aime. Et puis finalement, Eugénie Grandet, donc femme blessée, meurtrie, va s'émanciper pour ne plus jamais avoir à dépendre du bon vouloir des hommes. Juste un mot sur le casting, on retrouve Joséphine Japy, toujours aussi lumineuse, et puis le père Grandet, c'est Olivier Gourmet qui s'y colle.